De cet après-midi, c'est la crainte de Dieu. Nous avons lu deux textes dans les Actes des Apôtres qui nous montrent que la première Église a découvert très vite ce qu'était la crainte de Dieu. Dieu s'est manifesté puissamment dans cette première Église et nous le voyons le jour de la Pentecôte, par exemple. Mais la crainte de Dieu est née de cette manifestation de la puissance de Dieu. Et c'est lorsqu'ils ont vu tous les miracles que Dieu faisait, les guérisons, les conversions assez extraordinaires, comme celle notamment de l'apôtre Paul, du futur apôtre Paul, que les gens, pas seulement les chrétiens bien sûr ont découvert cette crainte, et nous allons voir tout à l'heure de quel genre de crainte il s'agit. Pas seulement les chrétiens devant l'action de Dieu, mais aussi, nous lisons dans les Actes des Apôtres, que les gens du dehors, les non-croyants ou les croyants qui n'étaient pas encore chrétiens, étaient impressionnés et vivaient eux aussi dans la crainte. Et pour certains, parce qu'ils vivaient dans la crainte de ce qu'ils entendaient, de ce qu'ils voyaient, eh bien, ils n'osaient pas se joindre à l'Église. C'est écrit dans un des textes des Actes des Apôtres. Quand j'étais jeune, bon, on pourrait dire quand j'étais enfant, carrément, dans beaucoup de maisons chrétiennes, dans beaucoup de foyers chrétiens évangéliques, en France, il y avait un cadre dans la maison, affiché au mur, et ce cadre disait « Christ est le chef de cette maison, il est l'hôte invisible, présent à chaque repas, auditeur silencieux de chaque conversation. » Ce texte-là était affiché au mur sur un beau cadre, bien dessiné. Et dans beaucoup de maisons de chrétiens, il y avait ce cadre. Et c'est vrai que les anciens, j'appelle les anciens la génération de mes parents par exemple, avaient une notion très forte de la crainte de Dieu. Ils en avaient peut-être même conçu un christianisme assez rigoureux, assez austère, qui était très teinté de morale, qui était fermé à toute tentative de modernisation ou de modernisme, et on ne fréquentait pas beaucoup les autres, parce que, eh bien, comme en leur temps les pharisiens, on avait peur de se laisser contaminer par l'extérieur. Ça a beaucoup changé aujourd'hui, et je pense que ce n'est pas un mal. Mais qu'est-ce que la crainte de Dieu ? La question reste entière. Qu'est-ce que la crainte de Dieu ? Je crois qu'il existe plusieurs formes de crainte, et il y a une première forme de crainte que je vais appeler la crainte stérile. Qu'est-ce que la crainte stérile ? D'abord, la crainte, d'une manière générale, ce n'est pas la terreur. Craindre Dieu, ce ne doit jamais être avoir la terreur de Dieu. Ça ne doit pas être trembler du matin au soir, hein, même si nous avions encore l'écriteau que j'ai cité tout à l'heure sous les yeux en permanence. Par exemple, quand il est dit « Christ est là, il est invisible, mais il est l'auditeur silencieux de chaque conversation », alors on va faire attention à ce qu'on dit, et peut-être qu'à la limite, pour ne pas risquer d'être en faute, on va essayer de ne pas parler du tout. Comme ça, on ne fera pas d'erreur. Non, la crainte, ce n'est pas la terreur. Mais la crainte que j'appelle la crainte stérile, c'est une crainte, par exemple celle que Adam et Ève ont ressentie après avoir mangé du fruit défendu. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Par crainte, et sans doute avec un peu de terreur aussi dans le cœur, ils se sont cachés pour que Dieu ne les voie pas. Comme si Dieu ne voyait pas, quand on se cache. S'il est quelqu'un qui voit partout où nous sommes, c'est Dieu. On pourrait qualifier cette crainte de peur, si on ne veut pas la qualifier de terreur. La crainte stérile, c'est par exemple la crainte du serviteur de la parabole des talents. Vous vous souvenez de l'histoire, un homme avait donné 10 talents à l'un de ses serviteurs, 5 au deuxième et un seul au troisième, Et puis il était parti en voyage, et pendant qu'il était parti en voyage, celui qui avait reçu les 10 talents les a investis, et ça lui a rapporté encore d'autres talents. Celui qui en avait reçu 5 les a investis aussi, il s'est dit, mais puisque j'ai ces talents, autant que je m'en serve, ça va pouvoir fructifier. Et puis ces talents ont rapporté quelque chose aussi, et on a rapporté d'autres. Et celui qui en avait reçu un seul a décidé de le cacher. Et quand son maître est revenu, il a demandé à chaque serviteur ce qu'il avait fait de ses talents, des talents qu'il avait reçus. Et alors le premier a montré ses 10 talents, qui avaient rapporté beaucoup d'autres talents. Le deuxième a fait de même. Le maître était content de ce qu'ils aient bien utilisé leurs talents. Et le troisième lui a dit, moi j'ai caché le talent, le seul. Peut-être qu'il n'était pas content parce qu'il n'en avait reçu qu'un seul. J'ai dit, je n'ai reçu qu'un, bien, ça ne rapportera pas grand-chose, donc autant le cacher pour qu'il ne se perde pas. Il avait oublié que dans la vie, si on a un talent et qu'on le cache, il ne sert à rien. C'est comme si on n'en avait pas. Et quand son maître lui a demandé pourquoi il avait caché son talent, cet homme a dit, j'ai eu peur de toi, j'ai eu peur que tu me disputes quand tu serais rentré. Parce que mon talent peut-être n'aurait pas rapporté grand-chose, alors je l'ai caché. Peut-être pour au moins ne pas le perdre. Et le maître n'a pas été du tout content de cela. La crainte stérile, elle est cependant meilleure que l'absence de crainte. Dans Romains 3, 18, Paul fait allusion à l'absence de crainte chez ceux qui sont sous l'empire du péché. Et il dit, nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu, tous se sont égarés, ensemble ils sont pervertis, la crainte de Dieu n'est pas devant leurs yeux. C'est forcément mieux d'avoir une crainte que l'on peut quand même qualifier de stérile, une crainte qui n'apporte rien. Parmi les craintes stériles, on pourrait aussi parler de cette forme de foi très particulière, je dis bien très particulière, que l'on appelle la superstition. La superstition, c'est une foi qui travaille à l'envers. On essaye d'éviter certaines choses parce qu'on a peur qu'elles nous portent malheur. On est attaché à certaines choses parce qu'on croit que cela va nous aider. J'ai connu des gens qui arrivaient souvent très en retard au culte. Quand je dis très en retard, ça veut dire au lieu d'arriver à 10 heures pour un culte à 10 heures, ils arrivaient à 11h, 11h15. Et j'en ai connu d'autres qui, sachant que, par exemple, dans nos églises francophones, enfin dans les églises françaises que je fréquente, il y a la Sainte-Cène tous les dimanches. Et alors, certains chrétiens s'arrangeaient toujours pour être là, au moins pour la Sainte-Cène. Et si la Sainte-Cène avait lieu à la fin du culte, certains arrivaient plus tard, juste un peu avant la Sainte-Cène. Pourquoi ? Parce qu'il partait du principe que s'il ne prenait pas la Sainte-Cène, il allait peut-être leur arriver malheur. Alors il se servait malheureusement de la Sainte-Cène comme d'une forme de superstition. Si je la prends, je suis tranquille. Et ça avait un effet différent aussi, c'est que lorsqu'il pensait avoir fait quelque chose de mal pendant la semaine, au lieu de s'en repentir, il venait au culte, mais il ne prenait pas la Sainte-Cène. De peur, là encore, qu'il ne leur arrive quelque chose de mal, parce qu'ils auraient touché le pain et le vin de la Sainte-Cène. Cela, c'est ce que j'appelle la crainte stérile. Je dirais presque, c'est de la crainte inutile. Mais ce n'est pas cela, la crainte de Dieu. Nous allons voir tout à l'heure un exemple avec un personnage bien connu de la Bible. La crainte, il y a une deuxième forme de crainte qui est la crainte de l'attente de Dieu. Il y a dans le livre des Actes des Apôtres, un groupe de gens qui sont appelés les craignants Dieu. Dans les Bibles françaises, peut-être pas les toutes nouvelles traductions modernes, mais dans les Bibles françaises des années, enfin du XXe siècle, disons, on employait cette expression pour désigner des gens qui pouvaient être, qui étaient généralement, qui n'étaient pas des juifs, mais qui s'approchaient de Dieu, qui s'intéressait à la foi du peuple juif et plus tard qui s'intéressaient à la foi chrétienne, mais sans embrasser cette foi. Alors, comme ils vivaient dans la recherche de Dieu, on les appelait les craignants Dieu, c'est-à-dire ceux qui craignent Dieu. Il est parlé ainsi dans le livre des Actes des Apôtres d'un certain officier romain qui s'appelait Corneille, un centenien, centurion, et il est dit de lui, il était pieux et avec toute sa famille, il craignait Dieu. C'est-à-dire qu'il ne faisait rien qui puisse déplaire à Dieu sans pour autant être ce que la Bible appelle un enfant de Dieu. Alors quels sont les éléments de la véritable crainte de Dieu? Je crois que le premier élément de la vraie crainte de Dieu, c'est d'abord la prise de conscience de la présence de Dieu. La Bible dit que Dieu est partout, qu'il est présent partout. La vraie crainte de Dieu, c'est cette prise de conscience du fait que Dieu est présent partout. Dans sa fuite, par exemple, prenons trois exemples bibliques. Dans sa fuite loin de son frère Ésaü, Jacob rencontre Dieu d'une manière personnelle. Il passe pour la première fois dans sa fuite loin de ses parents et de son frère Ésaü. Il se trouve dans un lieu où il passe la nuit et pendant la nuit, il a un rêve et ce rêve lui fait prendre conscience du fait que Dieu est là. Et à son réveil, conscient du fait que Dieu était là pendant la nuit auprès de lui, ce qu'il ignorait jusque-là, il va appeler ce lieu Bethel, qui veut dire en hébreu « maison de Dieu ». Prenons un autre exemple, Joseph, le fils de Jacob. Joseph est un exemple remarquable d'une personne qui vit dans cette crainte de Dieu, c'est-à-dire dans la conscience permanente de la présence de Dieu avec lui. Joseph a pourtant tout dans sa vie pour oublier Dieu. Je m'explique. Joseph n'a que des problèmes. Il est l'un des petits frères de la famille, puisque dans la famille, ils sont 12 garçons, et il est le 11e. Joseph fait des rêves, vous connaissez sans doute l'histoire, et dans ses rêves, alors qu'il est adolescent, il a peut-être 17, 18 ans, dans ses rêves, il voit qu'il domine ses frères. Il voit ses frères s'incliner devant lui. Et comme c'est un jeune, insouciant peut-être, alors il raconte ses rêves à ses frères. Et bien sûr, c'est le début de ses ennuis. Ses frères sont jaloux, se disent « Mais pourquoi notre petit frère rêve de dominer sur nous ?» Ils ne savent pas que ses rêves lui viennent de Dieu, et peut-être que lui-même ne le sait pas non plus. Mais que se passe-t-il ? Sa vie va se détériorer, il va être vendu par ses frères à des marchands qui vont l'acheter comme un esclave, puis il va se retrouver dans une maison en Égypte au service d'un officier du roi d'Égypte. Et pourquoi est-ce que je parle de cela ? Parce que Joseph, malgré ses difficultés, va vivre dans la crainte de Dieu. Non seulement il ne se rebelle pas contre son sort, il aurait pu dire « Mais Dieu est injuste avec moi. Moi, je l'ai toujours aimé, j'ai toujours essayé de faire ce qu'il voulait, et peut-être même que ces rêves que j'ai reçus viennent de lui. Et qu'est-ce que j'ai fait de mal ? Peut-être que le seul mal qu'il a fait, c'est de les raconter à ses frères. Il aurait peut-être dû attendre plus tard. Mais quelque part, Dieu a accompli son plan, et il est en Égypte. Il est maintenant en prison parce que la femme de son maître a essayé de le séduire et il a refusé par crainte de Dieu, ce qui montre bien que dans toutes ses épreuves, dans toutes ses aventures, il a été conscient du fait que Dieu est avec lui, que Dieu est là, que Dieu le voit. Et à cause de cela, il reste imperturbable et il reste fidèle aux principes de la Bible. Et Dieu, bien sûr, va le récompenser ensuite. Le futur roi David a eu un jour l'occasion, vous savez que lorsqu'il a été nommé roi, il n'est pas monté sur le trône tout de suite, il a vécu peut-être encore une quinzaine d'années environ avant de monter sur le trône, Mais le roi qui était sur le trône à l'époque a su que David était nommé comme son successeur. Et lui aussi l'a mal pris. Il a été jaloux de ce choix de Dieu. Surtout que Dieu lui a fait savoir par le prophète Samuel que lui, le roi actuel, avait été rejeté par Dieu. Cela veut dire que les jours de son règne sont comptés. David est persécuté par le roi, qui visiblement ne veut pas que David lui succède. En tout cas, pas tout de suite. Le roi essaye de tuer David. Et à un certain moment, David a une occasion unique de se débarrasser du roi, de le tuer. Le roi est dans un endroit, dans une grotte cachée, et David était caché, lui, depuis longtemps, au fond de la grotte, parce qu'il fuyait le roi. Il voit le roi entrer, et il essaye, pendant que le roi ne regarde pas, de couper un morceau de son vêtement, alors que ses amis lui disent « Mais c'est une occasion unique, Dieu te livre ton ennemi entre tes mains, vas-y, tue-le !» Puisque c'est de toute façon le plan de Dieu que tu montes sur le trône, après lui, c'est toi le successeur désigné, donc tue-le et tu monteras sur le trône. En quelque sorte, tu aideras Dieu à accomplir son plan, puisqu'il a dit que c'est toi qui allais succéder. Et vous savez que quand Dieu nous indique son plan, cela ne veut pas dire que c'est l'heure, le moment d'exécuter. C'est Dieu qui est aussi le maître, non seulement du plan, mais du timing du plan. Alors, David n'a pas voulu tuer son ennemi, à savoir le roi, peut-être parce que lui-même ne le considérait pas vraiment comme son ennemi, mais il a juste voulu couper un morceau de son manteau pour bien lui faire comprendre qu'en coupant le morceau de son manteau, il aurait pu le tuer aussi, puisque le roi ne s'est pas aperçu qu'il avait coupé le morceau de son manteau. Mais la Bible dit, et c'est là l'important, que lorsque David a simplement coupé un petit morceau de son manteau, vous savez, un manteau de roi, ça coûte peut-être cher, mais les rois, à l'époque comme maintenant, ont suffisamment de manteaux pour qu'un manteau abîmé, ce ne soit pas une grosse perte. Ils en ont généralement une garde-robe entière de manteaux, de toutes sortes. Mais la Bible dit, et c'est là le point important, que lorsque David a coupé le morceau du manteau du roi, son cœur s'est mis à battre. Son cœur s'est mis à battre, sous-entendu, plus vite, plus fort, parce qu'il a eu le sentiment qu'il avait touché à ce qu'il ne devait pas toucher. David avait un tel respect pour le roi, bien que le roi ait cherché à le tuer plusieurs fois, il avait un tel respect pour le roi que même le seul fait d'abîmer un peu son manteau, l'un de ses multiples manteaux peut-être, rien que cela lui a fait se sentir coupable, parce qu'il savait que le roi avait été choisi par Dieu. Et c'est là que nous voyons toute la crainte de Dieu qu'avait David. La vraie crainte de Dieu, c'est la reconnaissance de l'action de Dieu. L'Évangile raconte un incident, plutôt un événement, qui s'est produit dans la vie de l'apôtre Pierre. Avant d'être apôtre de Jésus, l'apôtre Pierre était pêcheur. Il pêchait des poissons dans le lac appelé le lac de Galilée, au nord du pays d'Israël. Et un jour, ou plutôt un matin, après avoir essayé de pêcher toute la nuit sans prendre un seul poisson, donc une nuit complètement stérile, il a rencontré Jésus. Et après avoir parlé un peu avec Jésus, Jésus lui a dit « Viens, on va aller pêcher ». Et Pierre lui a dit « Mais Seigneur, nous avons tenté de pêcher, nous sommes allés à la pêche toute la nuit avec mon frère, avec nos associés, et nous n'avons rien pris. Et toi, tu me dis, allons pêcher. » T'as l'air de dire, « Seigneur, il n'y a pas de poisson en ce moment. Le coin où nous allons pêcher d'habitude, il n'y a pas de poisson. » Mais Jésus lui a dit, « Viens et jette ton filet. » Et lui a indiqué où il fallait, du côté droit de la barque, « Jette ton filet. » Et quand Pierre a obéi à Jésus, la Bible dit qu'il a remarqué que quand il a voulu, quelques instants après, tirer le filet, en se disant peut-être « mais il n'y a rien », comme ça Jésus va voir qu'il n'y avait rien, eh bien il est dit que Pierre s'est rendu compte que le filet était lourd. Et en tirant le filet un peu plus haut, vers la barque, il s'est rendu compte que le filet était plein de poissons. Alors la Bible dit que Pierre a eu peur. Il a eu la crainte de Jésus. Et il a même dit à Jésus, « Retire-toi de moi, Seigneur, parce que je suis un homme pécheur. » Il a compris que Jésus était quelqu'un d'extraordinaire. Il a compris que Jésus était quelqu'un qui était capable de faire des miracles. Et alors, il a pris conscience de cela et il a eu peur, ou plutôt il a eu une crainte respectueuse de Jésus. Pierre a été frappé par le caractère inattendu de ce qui lui est apparu comme un pur miracle. Peut-être qu'il n'avait pas pris conscience jusque-là du fait que Jésus est capable de faire des miracles. Mais il a dit à Jésus, « Seigneur, retire-toi de moi », c'est-à-dire, « Seigneur, ne reste pas à côté de moi ». Il avait peur parce qu'il comprenait que Jésus était quelqu'un d'exceptionnel. Il était en présence d'un être unique. Lorsque nous pensons en même temps aux Israélites qui suivaient Moïse, il nous est dit que quand ils sont arrivés dans le désert au pied du mont Sinaï, Dieu a dit à Moïse qu'il allait lui parler, mais qu'il allait leur parler. Mais le peuple ne voulait pas que Dieu lui parle parce qu'il avait peur. Alors ils ont dit, Moïse, va sur la montagne et Dieu te parlera, puis après tu viendras et tu nous diras ce qu'il t'a dit. Parce qu'ils avaient eux-mêmes peur du fait que Dieu avait déjà accompli des miracles. Il y a bien d'autres exemples dans l'Évangile qui nous montrent, et même dans les Actes des Apôtres, que les gens vivaient dans la crainte de Dieu, mais une crainte utile. Une crainte utile comme celle qu'a manifestée un homme qui s'appelait Noé. La Bible dit, et nous devons lire deux versets, les versets 6 et 7 du chapitre 11 de l'Épître aux Hébreux, où il est dit « Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est celui qui récompense ceux qui le cherchent. C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. » Noé a entendu parler de Dieu, ou plutôt, Noé a entendu Dieu lui parler. Dieu lui a dit qu'il allait bientôt envoyer le déluge sur la terre. Et Dieu lui a dit de construire une arche, c'est-à-dire un grand bateau, un immense bateau, pour accueillir, vous le savez, Noé, sa femme, ses trois fils, les femmes de leurs fils, de ses fils, et des animaux en tout genre. Et Dieu a dit, construis ce bateau, parce qu'après je vais envoyer le déluge et tu auras besoin de ce bateau pour survivre. Et la Bible dit que quand Dieu lui a parlé, Noé a été saisi d'une crainte respectueuse. Et cette expression est très intéressante parce que elle est très différente de l'expression « crainte stérile » que j'ai employée tout à l'heure. Une crainte stérile n'apporte rien. La crainte stérile fait peur, elle nous fait nous comporter par peur et surtout elle nous paralyse quelque part. Par la peur, nous ne faisons rien, comme l'homme de la parabole des talents qui a caché son talent et qui a attendu le retour de son maître sans rien faire. La crainte stérile paralyse, elle empêche d'agir. Mais la crainte de Dieu, la crainte respectueuse, comme celle de Noé, est une crainte utile. On peut l'appeler aussi une crainte constructive. Noé n'a pas eu peur de Dieu. Noé a craint Dieu. C'est-à-dire que Noé a cru, comme le dit le texte précédent, Noé a eu la foi, c'est-à-dire qu'il a cru que Dieu allait faire ce qu'il avait dit. Dieu lui a dit « Construis un bateau, un grand bateau, parce que je vais envoyer un déluge d'eau sur la terre. Et tous ceux qui n'entreront pas dans le bateau périront dans les flots, dans l'eau. » Noé a compris et a cru que Dieu disait la vérité. La crainte de Dieu, c'est premièrement la crainte de Dieu respectueuse ou constructive, la seule crainte nécessaire, la seule vraie crainte, c'est d'abord de croire ce que Dieu dit. Dieu parle dans sa parole de bien des façons, et cette parole de Dieu doit nous pousser à croire que Dieu est vrai. Ensuite, Noé s'est mis au travail. Il a construit une arche pour sauver sa famille et aussi ceux qui auraient bien voulu entrer dans l'arche. La foi, la crainte constructive, non seulement nous aide et nous pousse à croire ce que dit Dieu, mais elle nous pousse à mettre en pratique ce que Dieu dit et ce qu'il enseigne. C'est cela la vraie crainte. Et c'est dans cette optique-là qu'il faut lire le texte que nous avons lu tout à l'heure dans Actes 9, 31. L'Église était en paix dans tout le pays. Elle s'édifiait, marchait dans la crainte du Seigneur et progressait par l'assistance du Saint-Esprit. L'Église craignait Dieu. Ça veut dire qu'elle écoutait Dieu, elle écoutait sa parole, elle croyait sa parole, elle croyait que Dieu disait et que Dieu allait faire ce qu'il disait. Donc, elle s'édifiait, comme dit le texte, elle s'édifiait, c'est-à-dire elle se construisait et elle marchait dans la crainte de Dieu. Et parce qu'elle marchait dans la crainte de Dieu, elle progressait par l'assistance du Saint-Esprit. Alors, nous pouvons dire que nous devons vivre dans la crainte de Dieu. Nous n'avons plus dans nos maisons l'écriteau que je mentionnais tout à l'heure au début. Mais cela ne doit pas nous empêcher de croire que Dieu est toujours là, que Dieu est toujours présent dans notre vie, qu'il est toujours le chef de notre maison, qu'il est toujours un hôte invisible, présent à chaque repas et pas seulement au repas, et qu'il est l'auditeur silencieux de chaque conversation. Alors faisons comme tous ces hommes que nous avons rencontrés, faisons comme Noé, comme Jacob, comme Joseph, comme le roi David et comme les premiers chrétiens, vivons en ayant toujours bien conscience que Dieu est présent dans notre vie et mettons en pratique sa parole, croyons-la de tout notre cœur et mettons-la chaque jour en pratique. Que Dieu vous bénisse.